Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième séance du séminaire Flaubert consacré au thème de la famille. Nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui Jacques Neff, qu'on ne présente plus, professeur émérite à la Johns Hopkins University et à l'Université de Paris 8, membre de l'Académie, de l'American Academy of Arts and Sciences. Il a publié de nombreux travaux sur les manuscrits d'écrivains et sur la génétique littéraire, des études sur Stendhal, Balzac, Hugo, Simon, Queneau, Pérec, Michon et bien sûr Flaubert. Il a par exemple co-dirigé avec Anne Hersberg-Pierrot les volumes Savoir en récit 1 et 2 parus aux presses universitaires de Vincennes en 2010. Il a édité plusieurs numéros des Modern Language Notes, revue publiée par la Johns Hopkins University Press. Un numéro sur Madame Bovary en 2007, sur Flaubert en 2010, sur Salammbô en 2013, et il a édité le numéro Gustave Flaubert de la revue Europe à l'automne 2018. Il a aussi réalisé un très important travail éditorial sur Flaubert, donné deux éditions de Madame Bovary au livre de poche classique en 1999 et en 2019. Et une édition de Salammbô, toujours au livre de poche classique en 2011. Il a récemment édité, en collaboration avec Anne Hersberg-Pierrot, La Tentation de Saint-Antoine et Bouvard et Pécuchet, dans le tome 5 des œuvres complètes de Flaubert à la Bibliothèque de la Pléiade, paru en 2021. Alors, la communication qu'il va présenter aujourd'hui s'intitule Misère et méchanceté des enfants, et je lui laisse la parole.
Merci beaucoup Juliette et bonjour à tous et à chacun. Donc, misère et méchanceté des enfants, en fait, ce sera plutôt méchanceté et misère des enfants, et il y a plus de misère que de méchanceté. On se souvient de Flaubert, je cite, inquiet des Anglais de Louis Collet, c'est-à-dire effrayé au moment de sa liaison avec Louis Collet qu'elle devienne enceinte. Et il lui écrit, c'était charmant, le 3 avril 1852, Moi, un fils, oh non, non, plutôt crevé dans un ruisseau écrasé par un omnibus. L'hypothèse de transmettre la vie à quelqu'un me fait rugir, au fond du cœur, avec des colères infernales. Flaubert est alors engagé, comme dans un devoir absolu, sans marge, dans son travail d'écrivain. Dans la nécessité du travail du style, ce qu'il confirmera dans une sorte de demi-regret, mais très lucidement, en 1879, dans une lettre à Franklin Sabatier du 16 février 1979. Flaubert y répond à une lettre que celle-ci terminait en ces termes: Vous savez, cher oncle Gustave, que vous avez en moi une demi-nièce dont l'amitié est sûre, le cœur solide. Franklin Sabatier était proche de la nièce de Flaubert, Caroline, qui d'ailleurs épousera plus tard le frère de Franklin, Franklin Grote. Flaubert lui répond: Ça, c'est gentil, ma demi-nièce. Vous ne pouviez rien imaginer qui me fût plus agréable, pourquoi même pas trois quarts de nièce? Vous avez tort de croire que les détails concernant votre enfant ne m'intéressent pas. J'adore les enfants. J'ai été né pour être un excellent papa. Mais le sort, et la littérature en ont décidé autrement. C'est une des mélancolies de ma vieillesse que de n'avoir pas un petit être à aimer et à caresser. Bécotez bien le vôtre à mon intention. Caroline Commerville rapporte elle aussi ce moment de nostalgie dans ses souvenirs sur Gustave Flaubert. Et l'on peut souligner, écrit-elle, la manière fidèle, patiente dont Flaubert. Pardon, c'est. Et l'on peut souligner la manière fidèle, patiente dont Flaubert éleva avec sa mère, sa nièce Caroline, en fit toute sa vie une correspondante privilégiée et vint à son secours financier lors de la faillite de Commanville. Mais cela n'est pas l'objet de cette présentation. J'écarte de loin ce fait biographique qui, cependant, indique cette attention et ce sacrifice, au fond, que Flaubert a fait d'une vie ordinaire. Je propose une investigation sur ce qui fait arrière-fond dans les œuvres de Flaubert. Je m'en tiens aux œuvres publiées par Flaubert qui sont dans l'horizon public de ce réseau relativement discret ou secret de son œuvre concernant les enfants. naissance, éducation, destin, rôle narratif, ce qui, en considérant le propos d'ensemble du séminaire de cette année, concerne et déborde largement la notion de famille, mais engage les destins de ces êtres relativement indéterminés que seraient les enfants. Naissance des enfants et partage dans l'éducation, de leur éducation. Je propose de commencer par le récit rétrospectif de la naissance et de l'enfance de Charles, par lequel Flaubert rejoint le début du roman et l'arrivée de Charles dans la classe. Je cite, je vais citer beaucoup de textes, mais je pense que sur ce domaine, c'est mieux d'entendre Flaubert. Je cite, « Quand elle eut un enfant, quand elle eut un enfant, la mère de Charles, il le fallut mettre en nourrice. Rentré chez eux, le marmot fut gâté comme un prince. Sa mère le nourrissait de confiture, son père le laissait courir sans souliers, et pour faire le philosophe, disait même qu'il pouvait bien aller tout nu comme les enfants des bêtes. » Fin de citation. Flaubert postule une éducation clivée selon un partage que l'on peut considérer comme deux programmes de vie et de société et très classique dans la société du XIXe siècle. Le père, je cite, avait un certain idéal viril de l'enfance, d'après lequel il tâchait de former son fils, voulant qu'on l'élevât durement à la spartiate pour lui faire une bonne constitution. Il l'envoyait se coucher sans feu, lui apprenait à boire de grands coups de rhum et à insulter les processions. Mais naturellement paisible, le petit répondait mal à ses efforts. Sa mère le traînait toujours après elle. Elle lui découpait des cartons, lui racontait des histoires, s'entretenait avec lui dans des monologues sans fin, pleins de gaieté mélancolique et de chatterie babillarde. On peut noter l'étrange contradiction entre « s'entretenait avec lui » et « dans des monologues sans fin ». Flaubert désigne ainsi une enfance divisée entre père et mère, qui partage violence et douceur, dureté et tendresse protectrice et envahissante. Le poids de cette première Madame Bovary sera constant et déterminant. C'est elle qui marie Charles avec la deuxième Madame Bovary et qui survivra à la troisième Madame Bovary. Rôle lourd et souvent cruel. On peut remarquer que Léon a lui aussi une mère qui veille et qui détourne son fils des mauvais chemins. Mais il faut aussi évoquer que dans Madame Bovary, Flaubert prête à Charles un moment d'enfance heureuse, libre, qui dans le roman et plus généralement dans l'œuvre de Flaubert ouvre un espace singulier de liberté d'être et qui est comme un rêve d'enfance. Je cite, « Il suivait les laboureurs et chassait à coups de mottes de terre les corbeaux qui s'envolaient. Il mangeait des mûres le long des fossés, gardait les dindons avec une gaule, fanait à la moisson, courait dans le bois, jouait à la marelle sous le porche de l'église les jours de pluie et, aux grandes fêtes, suppliait le bedeau de lui laisser sonner les cloches pour se pendre de tout son corps à la grande corde et se sentir emporté par elle dans sa volée. Ainsi poussa-t-il, aussi poussa-t-il comme un chêne, il acquit de fortes mains, de belles couleurs. » C'est un exemple assez singulier dans l'œuvre de Flaubert, de liberté enfantine heureuse, libre, portée dans une envolée, un rêve ponctuel de liberté et de bonheur. On peut voir en regard l'éducation triste des enfants dans Un cœur simple, sous l'ombre du veuvage de la mère, de la dégradation de fortune, même si c'est sous l'extraordinaire présence protectrice de Félicité, la servante au grand cœur. Ainsi de l'épisode des sorties à la ferme de Géfos. Félicité retirait de son cabas des tranches de viande froide et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d'une habitation de plaisance maintenant disparue. Le papier de la muraille en lambeaux tremblait au courant d'air. Madame Aubin penchait son front, accablée de souvenirs. Les enfants n'osaient plus parler. « Mais jouez donc, disait-elle. Ils décampaient. » On peut retenir la puissance singulière du mot vers la liberté, décamper. Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare ou tapait avec un bâton sur les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours. Là encore, c'est une sorte de souvenir de ce son d'enfance, tapé avec un bâton sur les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours. Virginie, le clivage est net, donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bleuets, et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés. Pour qui se souvenir dans l'espace d'une course et d'un éloignement de la petite fille devant soi? Mais Flaubert fera mourir de maladie Virginie, encore enfant, et disparaître Paul dans l'ingratitude. On peut cependant également rappeler l'importance, en contrepoint social, pour féliciter de son neveu Victor, enfant qui devient vite un solide jeune homme, engagé dans la marine, et que Flaubert fait disparaître également au loin. Flaubert fait intensément exister ces mondes ponctuels, ces êtres provisoires. Dans Saint-Julien l'Hospitalier, Flaubert développe en légende une dualité parentale comparable à celle qui affecte Charles. Je cite: elle était très blanche, la mère de Julien, elle était très blanche, un peu fière et sérieuse. À force de prier Dieu, il lui vint un fils. Le partage entre père, mère et père est développé par la nature des prédictions concernant ce fils, qui viennent en image à chacun. La sainteté pour la mère: réjouis-toi, ô mère, ton fils sera un saint. La violence et la puissance pour le père: beaucoup de sang, beaucoup de gloire, toujours heureux, la famille d'un empereur. Le partage est également décliné dans l'éducation de l'enfant, dès cette phrase très brève: quand il eut 7 ans, sa mère lui apprit à chanter. Pour le rendre courageux, son père le hissa sur un gros cheval. La formation de l'enfant est une succession de violences meurtrières, étrangement érotiques, dont je cite simplement les premières. Il s'agit de tuer une souris, repérée régulièrement. Je cite: au bout de très longtemps, un museau rose parut, puis la souris tout entière. Il frappa un coup léger et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang tachait la dalle. Il l'essuya bien vite avec sa manche, jeta la souris dehors et n'en dit rien à personne. Et plus loin, quand il s'agit d'abattre un pigeon avec une pierre, je cite: le pigeon, les ailes cassées, palpitait, suspendu dans les branches d'un troène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler, et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier raidissement, il se sentit défaillir. Charmants enfants, n'est-ce pas? Les termes de cette jouissance à portée de main sont d'une étrange violence. Les enfants ne sont pas des anges. Flaubert en fera un écho lointain, cette fois non de formation érotique, mais de pure cruauté, dans Bouvard et Pécuchet, avec le geste fou de Victor, atrocité, écrit Flaubert, qui est bouillant un chat. Je cite: on reconnut le chat, tout est flanqué, sans poils, la queue pareille à un cordon, des yeux énormes lui sortaient de la tête, ils étaient couleur de lait, comme vidés et pourtant regardés. Les enfants aussi sont déjà porteurs de l'atrocité dont sont capables les humains. Je reviens à plus paisible. Dans Bouvard et Pécuchet, précisément au chapitre 10, Flaubert développe en théorie et en pratique un clivage semblable à ce qu'il y a dans Saint-Julien et dans Madame Bovary, clivage semblable entre sexe pour l'éducation, cela après l'adoption de Victor et Victorine, enfin adoptés et non pas naît dans le livre. Je cite, ils se procurèrent plusieurs ouvrages touchant l'éducation et leur système fut résolu. Il fallait bannir toute idée métaphysique et d'après la méthode expérimentale, suivre le développement de la nature. Rien ne pressait, les deux élèves devant oublier ce qu'ils avaient appris. Fin de citation. Flaubert combine des préceptes notés dans l'Émile ou de l'éducation, dans Émile ou de l'éducation et dans l'éducation de Locke et a ajouté des ouvrages positivistes sur l'éducation datant des années 1870, voire les travaux de Michimasa Wada. Flaubert joue cependant la différenciation entre père et mère par la différence entre Pécuchet et Bouvard. Je cite, bien qu'ils eussent un tempérament solide, Pécuchet voulait, comme un Spartiate, les endurcir encore, les accoutumer à la faim, à la soif, aux intempéries, et même qu'ils portassent des chaussures trouées afin de prévenir les rhumes. Bouvard s'y opposa. Ce qui aboutit à la répartition suivante, Bouvard se chargea de la petite, Pécuchet du gamin, une sorte de mère pour la fille et une sorte de père pour le garçon. Flaubert démontre ainsi la puissance d'une persistance absurde dans le partage de l'éducation selon le genre. Le destin de Berthe et de Justin. Je voudrais un accent particulier sur ces deux personnages dans Madame Bovary. Autre naissance rapportée dans le récit même, il n'y a pas beaucoup de naissances dans le temps des fictions de Flaubert, celle-ci évidemment fondamentale, autre naissance rapportée dans le récit même, celle de Berthe dans Madame Bovary. Emma, je cite, souhaitait un fils, il serait fort et brun, elle l'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ces impuissances passées. Un homme au moins est libre. Il peut parcourir les passions et les pays. Fin de citation. Et on sait l'ironie que Flaubert développe immédiatement. Je cite, « Elle accoucha un dimanche, vers 6 heures, au soleil levant. » Au soleil levant. « C'est une fille, » dit Charles. Elle tourna la tête et s'évanouit. Fin de citation. La portée critique est ici profondément duplice. Le rêve romantique d'Emma d'avoir un fils a bien pour pendant la conscience de l'aliénation profonde des femmes dans le siècle. L'histoire d'Emma, comme celle de Berthe, en seront précisément la démonstration. Il est en effet intéressant de suivre cette enfance de Berthe. Celle-ci porte un prénom entendu par Emma au château de la Vaubyessard. C'est au cours d'une visite chez la nourrice de Berthe que s'esquisse l'émotion d'une liaison possible avec Léon. Flaubert conduit dans tout le roman une sorte de vrille entre les aspirations amoureuses d'Emma et l'amour infini de Charles pour celle-ci, comme pour l'enfant. Berthe est l'envers des désirs de sa mère, alors qu'elle est le rêve de son père. Le texte manifeste une violence toute particulière dans le rejet par Emma de celle-ci, qu'elle trouve laide, qu'elle brusque, violemment. Je cite, « Et laisse-moi donc, » fit-elle en la repoussant du coude. Berthe alla tomber au pied de la commode, contre la patère de cuivre, elle s'y coupa la joue, le sang sortit. Elle s'y coupa la joue, le sang sortit. Le phonisme là est tout à fait fondamental. Flaubert joue beaucoup de ces violences brèves qui tranchent, qui affectent les enfants. Berthe est dans le récit la ponctuation sensible du destin en cours de sa mère. Je cite. Un soir, Emma ne rentrant pas à Yonville, Charles en perdait la tête. Et la petite Berthe, ne voulant pas se coucher sans sa maman, sanglotait à se rompre la poitrine. Justin était parti au hasard sur la route. Monsieur Homais en avait quitté sa pharmacie. Alors que Charles associe profondément l'enfant à sa mère, dans un même amour, une même rêverie. Flaubert prête à Charles un amour infini pour Emma, comme accru dans la période de sa liaison avec Rodolphe. Je cite, « Quand il rentrait au milieu de la nuit, il n'osait pas la réveiller, Emma. J'insiste, n'osait pas la réveiller, il s'agit d'Emma. J'insiste parce que précisément la suite va associer Emma et la fille, et la petite fille. La veilleuse de porcelaine arrondissait au plafond une clarté tremblante. Sous quelle lumière vacillante sommes-nous, hein? La veilleuse de porcelaine arrondissait au plafond une clarté tremblante et les rideaux fermés du petit berceau faisaient comme une hutte blanche qui se bombait dans l'ombre au bord du lit. Charles les regardait. Au bord du lit, le lit d'Emma, le berceau de l'enfant. Charles les regardait. Ces lieux, le berceau, le lit, le bord du lit, cette proximité que pose Flaubert dit tout le lien qu'il donne à Charles dans cet amour pour Emma et l'enfant. La phrase continue, le texte continue. Il croyait entendre l'haleine légère de son enfant. Le croyait est extraordinaire parce que qui prête à Charles cette croyance, sinon une extraordinaire attention dans l'écriture qui consiste à faire croire entendre l'haleine légère de l'enfant. Le texte continue par une rêverie. Elle allait grandir. C'est comme si la rêverie sortait du souffle imaginé de l'enfant. Elle allait grandir maintenant. Chaque saison, vite, amènerait un progrès. Il la voyait déjà revenant de l'école à la tombée du jour, toute rieuse, avec sa brassière tachée d'encre et portant au bras son panier. Puis il faudrait la mettre en pension. Il voulait que Berthe fût bien élevée, qu'elle eût des talents, qu'elle apprît le piano. On est là dans les rêves d'Emma. Ah, qu'elle serait jolie plus tard. À 15 ans, qu'en ressemblant à sa mère, elle porterait comme elle, dans l'été, de grands chapeaux de paille. On les prendrait de loin pour les deux sœurs, ils se la figuraient travaillant le soir auprès d'eux, sous la lumière de la lampe. Ils se la figuraient travaillant le soir auprès d'eux, sous la lumière de la lampe. Flaubert construit ainsi une séquence profondément mélancolique d'un avenir rêvé, assez stéréotypé du bonheur, qui se fige en gravure du temps. La mélancolie partagée de la table commune, sous la lumière de la lampe, c'est aussi ce que l'on trouve dans le « Je me souviens » de Georges Perec. Et c'est ce qui est le destin qui n'arrivera pas. Mélancolie comme préemptive que Flaubert pose. Et là, le texte est d'une extraordinaire violence ou ironie que Flaubert pose en bord à bord avec la rêverie d'Emma. On se souvient évidemment de ce grand passage. Emma ne dormait pas, elle faisait semblant d'être endormie, et tandis qu'il s'assoupissait à ses côtés, elle se réveillait dans d'autres rêves. Au galop de 4 chevaux, elle était emportée depuis 8 jours vers un pays nouveau. Le destin de l'enfant est ainsi comme programmé dans la schise de cette double rêverie de ce qui n'arrivera pas. Étrange virtualité négative que construit Flaubert dans cette approche intime de l'émotion. Flaubert fait de l'enfant, de la petite fille, la mesure sensible du drame en cours. Lors de la détresse financière d'Emma, Berthe est présente pour Charles, par Charles. Je cite, « Après le dîner, il se promenait seul dans le jardin. Il prenait la petite Berthe sur ses genoux et, déployant son journal de médecine, essayait de lui apprendre à lire. L'enfant, qui n'étudiait jamais, ne tardait pas à ouvrir de grands yeux tristes et se mettait à pleurer. Alors il la consolait. Il allait lui chercher de l'eau dans l'arrosoir pour faire des rivières sur le sable ou casser des branches de troène pour planter des arbres dans les plates-bandes. Chercher de l'eau dans l'arrosoir pour faire des rivières sur le sable. Flaubert a le génie d'imprimer dans quelques images la puissance de la mémoire, la puissance du souvenir. Ici, cette impression « faire des rivières sur le sable » totalement enfantin, souvenir d'enfance, et en même temps, évidemment, ouverture d'une scène définitivement nostalgique. Lors de l'agonie d'Emma, Flaubert fait de Berthe le foyer d'une sorte de fable de la mort visible. Je cite. L'enfant arriva sur le bras de sa bonne, dans sa longue chemise de nuit, d'où sortaient ses pieds nus, sérieuse et presque rêvante encore. Elle considérait avec étonnement la chambre tout en désordre et clignait des yeux, éblouie par les flambeaux qui brûlaient sur les meubles. Il lui rappelait sans doute les matins du jour de l'an ou de la mi-carême, quand ainsi réveillée de bonne heure à la clarté des bougies, elle venait dans le lit de sa mère pour y recevoir ses étrennes, car elle se mit à dire « Où est-ce donc, maman ?» Et comme tout le monde se taisait, comme tout le monde s'est taisé, est extraordinaire, pour donner une densité infinie à cette scène de l'agonie d'Emma sous les yeux de sa fille, sous les yeux de Charles. Et comme tout le monde se taisait, « Mais je ne vois pas mon petit soulier. » Je cite, je saute ici un passage. Berthe, cependant, restait posée sur le lit. Flaubert a une audace scénographique tout à fait extraordinaire de créer ces tensions qui sont dans l'espace, dans la géométrie de l'espace, dans la proximité et dans la lumière même. Berthe, cependant, restait posée sur le lit. Oh! Comme tu as de grands yeux, maman, comme tu es pâle, comme tu sues. Sa mère l'a regardée. J'ai peur, dit la petite en se reculant. Emma prit sa main pour la baiser. Elle se débattait. Assez, qu'on l'emmène, s'écria Charles, qui sanglotait dans l'alcôve. S'incline, microscène, d'une tension infinie. De vie, de mort, de proximité et déjà d'éloignement dans cette petite fable. La fin brusque donnée à la scène, si visuellement et sensiblement profonde, dit l'intensité de celle-ci. Ce à quoi il faudrait pouvoir mettre fin à cette rencontre avec le proprement innommable, qui est une frayeur, telle que l'enfant l'a fait ressentir, et telle que Flaubert la rend absolument perceptible dans cette petite scène. Flaubert fait enfin de Berthe la compagne de deuil et de ruine de son père. Je cite, « Tous les appartements se dégarnirent, mais sa chambre, à elle, était restée comme autrefois. Après son dîner, Charles montait là. Le côté pensé du discours est extraordinaire. Après son dîner, Charles montait là. Il poussait devant le feu la table ronde et il approchait son fauteuil. Il s'asseyait en face du vide, en face du fantôme, en face de son fauteuil. Il s'asseyait en face et enfin, Flaubert réussit à produire des scènes du vide. D'une plénitude extraordinaire. Je joue sur le paradoxe, mais il donne une sorte de plénitude au vide qui est absolument sensible, appréhensible, dans la brièveté des phrases, dans le choc des mots. Il s'asseyait en face, en face. Une chandelle brûlait dans un des flambeaux dorés, dans un des flambeaux dorés. La pauvreté est présente et le deuil est marqué. Berthe, près de lui, enluminait des estampes. Là encore, en étant avec ce geste de l'enfant, dans cette continuité enfantine qui a une autre mesure des choses, Flaubert réussit à créer des temporalités superposées de douleur, de chagrin et ici de génération. Madame Bovary est un livre de deuil, assurément. Il fallait arriver au regret profond d'Emma. Flaubert atteint et fait partager une puissance mélancolique extrême entre le père et sa fille. Je cite. C'est plus tard, c'est à la fin. Livre de deuil. Il raccommodait ses joujoux, lui fabriquait des pantins avec du carton, ou recousait le ventre déchiré de ses poupées. On pourra penser à Loulou plus tard. Recousait le ventre déchiré de ses poupées. Puis il rencontrait des yeux la boîte à ouvrage, un ruban qui traînait, ou même une épingle restée dans une fente de la table. Il se prenait à rêver, et il avait l'air si triste qu'elle devenait triste comme lui. Fin de citation. Berthe, l'enfant, la petite fille, et le partage du malheur, jusqu'au geste de toucher la mort. Je cite, « Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. « Papa, viens donc !» dit-elle. Et croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre, il était mort. La petite fille et le partage du malheur, jusqu'à ce geste, poussé de toucher la mort, et jusqu'à son déclassement final, elle qui est envoyée pour gagner sa vie dans une filature de coton. Je voudrais souligner une précision remarquable de Flaubert. Alors qu'elle est rarement présente dans le cours du roman, Berthe est associée déjà à la mort lors du décès du père de Charles, dans cette calme et sinistre scène de deuil. Je cite, « Emma décousait la doublure d'une robe dont les bribes s'éparpillaient autour d'elle. » Ce détail sur l'effilochement, sur ce qui se défait, est extraordinaire. « La mère Bovary, sans lever les yeux, faisait crier ses ciseaux. » Le hurlement du côté de la mère Bovary, sans lever les yeux. Et Charles, avec ses pantoufles de lisière et sa vieille redingote brune, qui lui servait de robe de chambre, restait les deux mains dans ses poches et ne parlait pas non plus. Ce non plus suffit à dire le silence. Près d'eux, Berthe, en petit tablier blanc, raclait avec sa pelle le sable des allées. On a ici une étonnante pause sur la scène familiale de deuil, avec cette vue de l'enfant en tablier blanc et sur un bruit, raclait avec sa pelle le sable des allées, sur le geste répétitif qui rythme l'immobilité et le silence de la scène. Berthe est un outil extraordinaire pour Flaubert de formulation, au fond, de la profondeur du silence et du deuil. Flaubert invente une sorte de parallèle à l'enfant Berthe avec l'adolescent Justin, qui lui est dans la classe des enfants recueillis. Arrière-cousin de M. Homais, recueilli par charité dans la maison et qui sert de domestique. situation sociale très caractéristique du XIXe siècle. La servante d'Emma, Félicité, reproche à Justin de toujours fourrager du côté des femmes, un équivalent à Yonville du chérubin de Maria, du mariage de Figaro ou des noces de Figaro. Justin est l'enfant adolescent, trame érotique et d'amour silencieux dans le livre. Ainsi de cet étrange détail, lorsque Justin s'évanouit pendant la saignée de l'homme de M. Boulanger, qui est la première rencontre de Boulanger et de Emma. M. Boulanger vient d'installer Justin évanoui sur la table, le dos appuyé contre la muraille. Et il y a ce texte tout à fait extraordinaire. Madame Bovary se mit à lui retirer sa cravate. Il y avait un nœud au cordon de la chemise. Elle resta quelques minutes à remuer ses doigts légers dans le cou du jeune garçon. Ensuite, elle versa du vinaigre sur son mouchoir de batiste. Elle lui en mouillait les tempes à petits coups et elle soufflait dessus délicatement. Quel étrange moment de scène où enfin, l'enfant ne perçoit peut-être pas ce qui est en train de se faire, de lui arriver, mais en même temps, évidemment, l'enfant le perçoit. En tout cas, il s'en souviendra, si je puis dire, inconsciemment. Le charretier se réveilla, mais la syncope de Justin durait encore et ses prunelles disparaissaient dans leur sclérotique pâle comme des fleurs bleues d'ondulées. Poésie de l'enfant. Cette dualité entre le charretier qui s'éveille et Justin, qui ne s'éveille pas encore, sous l'œil de Rodolphe, fait que celui-ci peut regarder en toute discrétion Emma, au point que cette vision devient comme une image en mémoire. Je cite, « Madame Bovary prit la cuvette. Pour la mettre sous la table, dans le mouvement qu'elle fit en s'inclinant, sa robe, c'était une robe d'été à quatre volants, de couleur jaune, longue de taille, large de jupe. Sa robe s'évasa autour d'elle sur les carreaux de la salle. Et comme Emma baissait, chancelait un peu en écartant les bras, le gonflement de l'étoffe se crevait de place en place selon les inflexions de son corsage. » Fin de citation. Rodolphe et nous pouvons regarder au point de le mémoriser, la robe, citée entre parenthèses, au point de mieux mémoriser, ce que Justin encore évanoui ne voit pas, mais dit-il l'occasion, et qui a été ce lieu sensible de la caresse d'Emma. Une sorte de sensualité profonde passe de l'un à l'autre, de l'enfant évanoui à Rodolphe regardant. Il y a une scène ici de tension érotique tout à fait extraordinaire, discrète, à la fois inconsciente, l'enfant est encore inconscient, et évidemment, déjà, chasseresse Rodolphe qui voit tout de la situation d'Emma et de sa beauté, le gonflement de l'étoffe se crever de place en place selon les inflexions de son corsage. Il y a le désir de toucher ici. Justin, l'adolescent qui lit le tableau de l'amour conjugal de Nicolas Venette, ouvrage anatomique et d'éducation sexuelle de 1686, constamment réédité et dont Flaubert et que Flaubert qualifie de production inepte, lecture qui provoque la colère de Homais. Justin, qui sert de messager d'Emma pour les rendez-vous avec Rodolphe et qui rêve devant le linge intime d'Emma, je cite, le coude sur la longue planche où elle repassait, il considérait avidement toutes ces affaires de femmes étalées autour de lui, les jupons de Bazin, les fichus, les collerettes et les pantalons à coulisses, vastes de hanches et qui se rétrécissaient par le bas. Le pantalon est pour ainsi dire pris dans les mains, vaste de hanches et qui se rétrécissaient par le bas. Justin, à qui Flaubert prête cette rêverie étrange d'adolescent sur les objets d'Emma liés à Emma, je cite, et aussitôt il atteignait sur le chambranle des chaussures, les chaussures d'Emma, tout empâtées de crottes, la crotte des rendez-vous, qui se détachaient en poudre sous ses doigts et qu'il regardait monter doucement dans un rayon de soleil. La figure est paradoxale, mais évoque également une autre poudre, celle de l'arsenic, dont Justin est le donateur involontaire. Dans ce qui semble être une étrange fable de la fatalité, Justin, personnage quasi mythique, apparaissant sporadiquement mais avec la précision d'une contribution au destin tragique d'Emma. Flaubert écrit l'épisode de l'arsenic d'une manière comme essoufflée, particulièrement tendue. Emma arrive vers la pharmacie. Je cite, « Il n'y avait personne. Elle allait entrer. Mais au bruit de la sonnette, on pouvait venir. » Et, se glissant par la barrière, retenant son haleine, tâtant les murs, elle s'avança jusqu'au seuil de la cuisine où brûlait une chandelle posée sur le fourneau. Justin, en manche de chemise, emportait un plat. « Ah, il dîne. Attendons. » Il revint. Elle frappa contre la vitre. Il sortit. « La clé, celle d'en haut. Où sont les ? Comment ?» Et il la regardait tout étonné par la pâleur de son visage qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit. Elle lui apparut et extraordinairement belle et majestueuse comme un fantôme. Sans comprendre ce qu'elle voulait, il pressentait quelque chose de terrible. Fin de citation. Flaubert fait ainsi de ce presque encore enfant l'instrument même du destin, de la fable de la mort, ponctuant de manière très précise son rôle, involontaire mais nécessaire et précis, comme dans un mythe moderne. Justin est à la fois l'associé de la mort et la présence d'un juste amour. Flaubert signera encore ce rôle lors de l'enterrement d'Emma, je cite, « et l'on sortit de l'église ». Justin alors parut sur le seuil de la pharmacie, il y rentra tout à coup, pâle, chancelant. Fin de citation. Justin est le juste chagrin. Je cite, « sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé. » Flaubert emploie le mot « enfant » ici. Un enfant pleurait agenouillé et sa poitrine, brisée par les sanglots, haletée dans l'ombre, sous la pression d'un regret immense, plus doux que la lune et plus insondable que la nuit. Dernière partie, les dislocations de parentèle et la misère des enfants. Les naissances d'enfants incluses dans le temps des récits ne sont cependant pas nombreuses. Charles, Berthe, Julien. Il y a bien également dans l'éducation sentimentale l'étonnant épisode de la naissance de l'enfant de Rosanette et de Frédéric, et qui est une sorte d'antiphrase, de preuve de d'une impossibilité à la fois sociale et narrative, avec la maladie du croup, la mort rapide de l'enfant, trop encombrant. Deuil brutal et finalement déterminant, qui dit en fait l'impossibilité d'une telle histoire, celle d'un tel amour d'arrangement social devenant couple et famille. Cela en vis-à-vis de la famille Arnoux et de la fidélité de Madame Arnoux à ses enfants. Mais les orphelins et les enfants illégitimes sont nombreux dans les romans de Flaubert. Emma est orpheline de sa mère. Frédéric est orphelin de son père. Paul et Virginie sont orphelins de leur père. Et Julien, devenu adulte, devient le meurtrier de son père et de sa mère. Est-ce que c'est l'inverse des forces de l'orphelin? Peut-être. Cela est d'une certaine manière compensé par les paternités de substitution et l'étrange propension de Flaubert à instituer la bâtardise comme fondatrice. C'est avec l'héritage de son oncle, dont la proximité avec lui n'est pas précisée, mais que l'on peut entendre comme une paternité cachée, que Frédéric peut s'engager dans sa vie parisienne. Et de même, c'est l'héritage de son oncle que fait Bouvard, oncle auquel il ressemble beaucoup, comme Pécuchet le remarque avec ironie, qui permet aux deux bonshommes de s'installer comme rentiers à la campagne. Bâtardise et héritage d'un côté, enfants perdus et recueillis, comme Justin et Victor, le neveu de Félicité, comme Victor et Victorine dans Bouvard et Pécuchet. Marthe Robert a très précisément décrit dans En haine du roman, la profondeur et le sens de cette dualité chez Flaubert dans la composition psychique qu'il fabrique et mobilise dans son choix d'être absolument écrivain. Flaubert développe ainsi, par cette trame complexe des enfants, une vue profonde qui a la réalité d'une fantasmatique sur la difficulté d'être, sur les impuissances liées au hasard de la naissance. Il expose les phases sombres des enfances, en particulier par le hasard social des naissances. On peut noter qu'il relève ainsi une profonde réalité de la misère sociale. Un passage est très énigmatique dans Bouvard et Pécuchet, qui dessine la marque psychique et indélébile de la violence et du crime dans l'angoisse des enfants. Flaubert donne à Victor et Victorine un très étrange espace. Je cite « Le cabinet noir au fond du couloir devint leur chambre à coucher. Le cabinet noir au fond du couloir devint leur chambre à coucher. Elle avait pour meuble deux lits de sangle, deux cuvettes, un bro. Bro se prononce bro, mais la graphie broc, je crois, est importante avec ce C devant le point. Surtout suivi de l'œil de bœuf s'ouvrait au-dessus de leur tête et des araignées couraient le long du plâtre. Fin de citation. Flaubert assigne les deux enfants à ce lieu, porteur d'une étrange angoisse, avec cet œil de bœuf au-dessus de leur tête, comme d'un regard porté sans cesse sur eux. L'œil de bœuf a également un rôle important dans la chambre de Félicité. Le poids d'un contrôle ou d'une menace. C'est ce que Flaubert développe aussitôt dans un paragraphe d'une extraordinaire fantasmatique, celle d'une mémoire profondément traumatique. Je cite. Souvent, ils se rappelaient l'intérieur d'une cabane où l'on se disputait. Leur père était rentré une nuit avec du sang aux mains. Quelque temps après, les gendarmes étaient venus. Ensuite, ils avaient logé dans un bois. Des hommes qui faisaient des sabots embrassaient leur mère. Elle était morte. Une charrette les avait emmenés. On les battait beaucoup. Ils s'étaient perdus. Puis il revoyait le garde champêtre, Madame de Noaris, Sorel, et sans se demander pourquoi, cette autre maison, il s'y trouvait heureux. Ce texte, la brièveté, dans la juxtaposition sans commentaire des séquences, a une extraordinaire capacité fantasmatique pour dire la mémoire d'une misère enfantine très caractéristique du siècle, en particulier de la France rurale. On peut cependant noter que Flaubert invente un autre destin d'enfant trouvé, comme pour construire un parallèle, toujours dans Bouvard et Pécuchet, avec Mélie, recueillie alors qu'elle est encore enfant et misérable ouvrière dans les champs rattachés au château, et qui deviendra l'aubergiste du village par une succession de séductions et de corruptions, avec l'aide de cet autre personnage polymorphe et sans origine, qu'est Gorgu. C'est dans l'éducation sentimentale, cependant, que l'on trouve l'épisode le plus violent et intense sur la brutalité sociale absolue contre les enfants, en l'occurrence contre l'enfant-fille, sous forme, là encore, de mémoire pensive, de douleur persistante dans le temps, avec le récit de Rosanette, lors de la promenade censée être idyllique à Fontainebleau. Ce sont les journées de juin à Paris, journées d'une répression féroce. Répression politique et précisément antisociale. Je cite, « Elle soupira et se mit à parler de son enfance. Ses parents étaient des canuts de la Croix-Rousse. Elle servait son père comme apprenti. Le pauvre bonhomme avait beau s'exténuer, sa femme l'invectivait et vendait tout pour aller boire. Rosanette voyait leur chambre. Rosanette voyait leur chambre. Cette chose est, enfin, cette capacité qu'a Flaubert d'écrire de la mémoire est tout à fait saisissante. Écrire la mémoire dans la fiction est évidemment un redoublement d'intensité. Rosanette voyait leur chambre avec les métiers rangés en longueur contre les fenêtres, le pot bouille sur le poêle, le lit peint en acajou, une armoire en face du lit peut-être, mais en face de la mémoire, et la soupente obscure où elle avait couché jusqu'à 15 ans. Récit de mémoire persistante, récit de l'empreinte indélébile, où elle avait couché jusqu'à 15 ans. Enfin, un monsieur était venu, un homme gras, la figure couleur de buis, des façons de dévot, habillé de noir. Sa mère et lui eurent une conversation, si bien que 3 jours après, Rosanelle s'arrêta et, avec un regard plein d'impudeur et d'amertume, c'était fait. Citation. La description de la scène de viol qui suit est extraordinairement précise, prise dans l'ombre de la mémoire. Je cite. La table était couverte d'un tas de choses que je ne connaissais pas. Rien ne m'a semblé bon. Alors je me suis rabattu sur un pot de confiture et j'attendais toujours. Je saute ici le passage, j'abrège. Il était très tard, minuit au moins. Je n'en pouvais plus de fatigue. En repoussant un des oreillers pour mieux m'étendre, je rencontre sous ma main une sorte d'album, un cahier. C'était des images obscènes. Je dormais dessus quand il est entré. Elle baissa la tête et demeura pensive. Les feuilles autour d'eux susurraient dans un fouillis d'herbe, une grande digitale se balançait, la lumière coulait comme une onde sur le gazon, et le silence était coupé à intervalles rapides par le broutement de la vache qu'on ne voyait plus. Ça, c'est l'extraordinaire réalisme fantasmatique de Flaubert, et le broutement de la vache qu'on ne voyait plus. Le début du passage commence par une vache présente. Rosanette considérait un point par terre, à 3 pas d'elle, fixement, les narines battantes, absorbée. Frédéric lui prit la main. Absorbée. La scène est intensément suspensive, absorbée précisément. L'écriture, comme Frédéric, prend soin d'accompagner ce violent moment de mémoire traumatique. Flaubert avait noté dans le carnet 19, il y a 33, recto, le récit que lui avait fait de son dépucelage viol, Suzanne Lagier. À la même période où Flaubert écrit ce passage, en 1968-1969, Degas fait un tableau saisissant de ce type de viol socialement organisé, qui sera intitulé plus tard « Le viol », peut-être après avoir lu, d'après Théodore Reff, un épisode de Thérèse Raquin. Enfin, brièvement pour conclure, que les enfants puissent être des misérables sacrifiés dans la violence radicale dont les humains en société sont capables, Salammbô en est l'expérience d'une ultime violence, à laquelle s'ajoute la monstrueuse vilenie d'une substitution d'enfants par Amilcar, sauvant ainsi Hannibal et l'avenir de Carthage au moment du massacre des enfants. Du massacre des moutards, comme dit Flaubert. Je cite, « Les bras d'airain allaient plus vite, ils ne s'arrêtaient plus. Chaque fois que l'on y posait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient sur lui pour le charger des crimes du peuple, en vociférant, ce ne sont pas des hommes, mais des bœufs. Et la multitude alentour répétait, des bœufs, des bœufs. » Une citation. Étrange familiarité normande et flaubertienne dans ce moment d'humain, d'horreur. Flaubert approche ainsi au plus près la capacité de violence et d'horreur sur laquelle se fonde religieusement et mythiquement l'humanité, précisément par le sacrifice des enfants. Je cite, les victimes à peine au bord de l'ouverture, disparaissait comme une goutte d'eau sur une plaque rougie, et une fumée blanche montait dans la grande couleur écarlate. Fin de citation. Peut-on regarder la monstruosité du sacrifice des enfants? Je cite, « Cela dura longtemps, indéfiniment, jusqu'au soir, puis les parois intérieures prirent un éclat plus sombre. Alors on aperçut des chairs qui brûlaient, quelques-uns même croyaient reconnaître des cheveux, des membres, des corps entiers. » Je vous remercie.